Voilà, je vais vous lire ce matin pour la prédication d'Éric des plusieurs textes dans Apocalypse 6 et 7. Apocalypse 6, 1 à 5. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre : Viens. Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Ouverture du troisième sceau, la famine. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être dire « Viens ». Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Un litre de blé au prix d'une journée de travail » et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Et puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. » Et qui peut subsister. Et après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000.
Sympa le texte. Hein ?
Merci.
Merci Sylvie d'avoir lu ce texte sympathique pour un dimanche. Mais vous l'avez compris, on continue la série de prédications sur le dernier livre de la Bible. En anglais, c'est Révélation. En français, c'est Apocalypse, mais ça veut dire la même chose. Donc, c'est le dernier livre de la Bible, la Révélation. Et on a vu dans le premier chapitre, dans la première prédication, une introduction au livre de l'Apocalypse avec, c'est un livre un petit peu mystérieux, avec tout un langage apocalyptique qui est un genre littéraire très connu à l'époque du Nouveau Testament et un peu avant aussi. On écrivait dans un genre apocalyptique, c'est un genre littéraire proprement dit, mais on s'est posé la question qui parle, c'est Jésus d'ailleurs qui parle, par l'entremise de Jean, là, vous avez une image de Jean, intéressant, une photo prise dans les années 90-100 du 1er siècle. Jean qui écrit sur l'île de Patmos avec une révélation de la part de Jésus et qui écrit l'Apocalypse. Et puis, on a parlé un petit peu de comment comprendre l'Apocalypse. Je ne vais pas tout refaire cette prédication, mais justement, cette semaine, il y avait un article dans le livre, dans le journal protestant Réforme, je l'ai découpé, et c'est intéressant, il parlait de l'Apocalypse, Antoine Nouis, un bon auteur, un bon bibliste, qui parlait de l'Apocalypse et qui comparait au Seigneur des Anneaux. Vous vous souvenez de ce film qui est passé dans les années 2000, ça date déjà de 23 ans, wow. Le temps passe vite, et voilà ce qu'il dit, je lis, prenons un exemple, pourquoi comprendre l'Apocalypse, dans la littérature contemporaine, le Seigneur des Anneaux de Tolkien décrit un monde peuplé de nains, de magiciens, d'elfes et de trolls, et de gollums et de gnomes, autour de la quête d'un anneau qui donne la toute-puissance. Vous voyez l'anneau là, avec le hobbit qui essaye de le saisir. Et ils essayent de se débarrasser de l'anneau pour éviter que la toute-puissance ne tombe entre des mauvaises mains. Saron, etc. Voilà ce qu'il dit l'auteur Antoine Nouis. Nous savons bien que les elfes et les trolls n'existent pas. Mais le message est tout à fait actuel. Il en est de même pour tous les textes apocalyptiques. Nous devons nous mettre à l'écoute du message qu'il renferme derrière les descriptions extraordinaires. Et pour résumer un petit peu le message de l'Apocalypse, Antoine Nouis avait deux, on va dire, punchlines, comme on dit aujourd'hui. Le message de l'Apocalypse, c'est « l'histoire est tragique ». L'histoire est tragique. Deuxième punchline, « une espérance est possible ». Je trouvais que c'était vraiment très bien comme résumé, et on pourrait s'arrêter là d'ailleurs, mais non, on va continuer. Donc après, nous avons vu pendant quatre dimanches les lettres aux sept églises. Nous n'en avons fait que quatre. Vous vous souvenez, à chaque fois je vous interroge, mais Éphèse, ou l'église de la perte de son premier amour. Smyrne, ou l'église en souffrance. Philadelphie, où l'Église, avec des portes ouvertes, c'est-à-dire des occasions d'avancer dans la vie et surtout dans la vie avec Dieu. Et puis Laodicée, l'Église où le chrétien ou l'individu avec un problème d'eau tiède dans sa maison et dans son fort intérieur. Et je pense des messages toujours actuels pour nous aujourd'hui, ces messages aux sept églises de l'Apocalypse. On a laissé Sardes et Pergame et je ne sais plus laquelle il manque, mais voilà, on en a laissé quelques-unes. Et puis le chapitre 5 et 4 et 5 parlent de l'adoration à l'agneau. On ne peut pas parler de tout. Et nous en arrivons au chapitre 6 et 7 que nous avons lu tout à l'heure. Et ce qui relie ces deux chapitres, c'est quoi ? C'est une histoire de sceau. Ah, une histoire de sceau dans une orthographe particulière. Ce n'est pas le sceau qui fait des sottises, ce n'est pas le sceau à faire dans le vide, mais le sceau avec lequel on scelle quelque chose, une lettre avec un sceau royal, un compteur EDF avec un scellé, un appartement où un crime a eu lieu, la police appose des scellés. J'aimais bien le verbe, apposer des scellés. Personne ne passe. Il y a un sceau où il trépasse. Et dans le chapitre 6, on n'appose pas des scellés, mais au contraire, on les ouvre. Les sept sceaux qui fermaient le livre. Le livre qui apparaît au chapitre 5 et dans le symbolisme apocalyptique, du genre littéraire apocalyptique, très répandu à l'époque, le livre est symbole de la révélation et il présente l'accès à la connaissance. Alors rien n'est dit sur le contenu de ce livre scellé, mais le plus important, semble-t-il, c'est le rapport entre Christ ou l'agneau, et ce livre, à savoir que le Christ a autorité sur ce livre. Et les 24 vieillards chantent un cantique et qui disent « Oui !» et ils s'adressent à l'agneau. « Tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, et d'ouvrir les sceaux. C'est ça l'autorité de Christ sur les sceaux. Alors, tout le monde se demande, il va briser les sceaux, et qu'est-ce qui se passe quand on brise les sceaux? Eh bien, il y a quatre cavaliers qui ressortent. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, bien connus dans, aujourd'hui encore. Ces quatre cavaliers. Qu'est-ce qui représente ces quatre cavaliers de l'Apocalypse? Rien de bon en général. Ils ont mauvaise réputation. Il y a un professeur Gottman, Université de Seattle, spécialiste du couple, a décrit les quatre cavaliers de l'Apocalypse pour le couple. Je vous les cite. La critique, le mépris, la défensive, le repli sur soi. Hein? C'est une bonne idée, ça. Les quatre cavaliers destructeurs du couple. Et c'est bien ce dont il s'agit avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ce sont des destructeurs. C'est les chevaux, et surtout les cavaliers, d'ailleurs, sont porteurs de destruction. Alors le premier pose un petit problème, parce qu'il est blanc et qu'il est décrit comme un vainqueur. Mais il est très possible que cette victoire, premier paragraphe, soit une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire où tout le monde est mort. Et il faut faire attention avec le fait qu'il est blanc et qu'il pourrait paraître pur. On dit dans la Bible que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Donc ce cavalier blanc est porteur de destruction lui aussi. Et en tout cas, les autres sont porteurs de fléaux, de catastrophes. Le cheval rouge, c'est la mort. Non. C'est la guerre, pardon. Bannir la paix de la terre. Il va bannir la paix de la terre. Et il va promouvoir la guerre. Le cheval noir est intéressant, c'est la famine. Il tient une balance, un litre de blé au prix de 3 jours de travail, c'est-à-dire 10 fois le prix normal. Ça s'appelle comment ça? L'inflation. Ça vous dit quelque chose, ça, l'inflation? Ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Et le cheval blême, qui est la mort et qui reprend les thèmes de la guerre, c'est le quatrième paragraphe ici, reprend les thèmes de la guerre, de la famine et ajoute les maladies, des bêtes féroces, des fléaux qui frappent l'humanité. Et c'est là que l'Apocalypse, on en a parlé au début, fait sa réputation d'un livre qui fait peur. C'est pour ça que je dis un texte sympa. Ben non. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on appelle, on dit la moindre catastrophe qui arrive, on dit c'est l'Apocalypse. C'est une vision apocalyptique après une inondation, etc. Bon, on a dit qu'au contraire, l'Apocalypse était la révélation de belles et bonnes choses. Mais bon, on comprend avec ces textes que l'Apocalypse est cette réputation de catastrophe, de livre qui fait peur, et ces quatre cavaliers sont pas là pour faire du dressage ou du jumping. Ils apportent le malheur sur la terre. Ce sont des oiseaux de mauvais augure. Et cela va continuer avec les 7 trompettes. Au chapitre 8, les 7 anges. Au chapitre 15, qui portent 7 fléaux. Et les 7 coupes. Au chapitre 16, comme si ça reprenait ce cycle, septégère, je pense, ou septuagère, des cycles de 7 qui parlent tous de ces cycles, de séries de catastrophes plus ou moins naturelles. On nous annonce avec force détail des catastrophes qui font froid dans le dos. Et le lecteur biblique de se demander, le lecteur de la Bible de se demander, comment un auteur biblique peut-il même écrire ce genre de choses? Et sous-jacente, the big question, comment un Dieu d'amour peut-il révéler dans son Apocalypse tant d'horreurs? Mais comme souvent dans la Bible, il faut rappeler le contexte de l'Apocalypse. À qui s'adresse ce livre de l'Apocalypse à la fin du 1er siècle, 90-100, après Jésus-Christ, que Jean écrit en exil sur son île de Patmos, en exil par l'Empire romain, Ce livre s'adresse à des chrétiens qui sont dans l'Empire romain, ou il faudrait plutôt dire sous l'Empire romain. Un empire qui est totalitaire, qui est oppresseur, qui a rasé Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, qui persécute les chrétiens qui refusent d'adorer l'empereur, on en a parlé aussi, qui jette des chrétiens dans les arènes pour se faire déchirer par les bêtes féroces. Ah oui, bêtes féroces. Il y a des martyrs déjà, Antipas de l'église de Pergame est mort martyr. Antoine Nouis nous le disait, l'histoire est tragique. L'histoire est tragique, et en particulier pour ces chrétiens du 1er siècle, et peut-être pour nous aussi. Et ce que dit Jean dans son style littéraire apocalyptique, avec des symboles comme les sceaux, les cavaliers, les trompettes et les coupes, c'est que le jugement contre cet empire est en route. Le prince de ce monde, dit Jésus, voici le prince de ce monde est déjà jugé. Il y a un jugement sur cet empire romain et sur tous les empires qui vont suivre après. Et le but de ce livre de l'Apocalypse est de le dire haut et fort et de le répéter encore et encore à l'aide de différentes images, en cycle, cet empire romain, comme tous les autres empires, comme tous les autres systèmes totalitaires, est condamné. Totalitaire qui avait ce désir absolu de tout englober. Le 666, 3 fois 6, 3 fois 7 moins 1, 7. La divinité, Dieu. 6, on essaye d'être Dieu, mais on n'y arrive pas. Bref, donc le but n'est pas de faire de la prédiction chronologique, mais d'encourager les chrétiens avec des images fortes de victoire, mais aussi avec des images fortes de jugement sur cet empire. Sur cet empire, il faut bien le dire, du mal. Et c'est sur cet empire que la colère de Dieu se manifeste. Et au verset 16, je ne sais pas si on l'a lu tout à l'heure, oui on l'a lu, il est question, devinez quoi, de la colère de l'agneau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un agneau en colère. C'est bizarre comme image. Mais l'agneau, c'est le Christ. Et il y a la colère de Christ. La colère de Dieu est particulière hein, sur le monde. Elle ne ressemble pas à ma colère qui est très colérique, ni à celle du capitaine Haddock, ni à celle de Nikita Khrouchtchev, quand il tape avec son soulier aux Nations Unies dans les années 60. La colère de Dieu est particulière et le jour de la colère de Dieu est particulier. Et dans son livre, que je vous ai déjà cité, un père catholique écrit, le titre de son livre c'est « Je n'ai pas écrit l'Apocalypse pour vous faire peur ». Donc on est bien dans le thème. Il nous dit qu'il ne faut pas penser surtout que Dieu soit un Dieu revanchard, qui prend sa revanche sur le monde. Mais il faut penser à Dieu dans sa justice. Dieu n'est pas un Dieu revanchard, mais Dieu est un Dieu juste. Et Yves Saou le dit très bien, c'est l'auteur dans ce livre. Que serait un Dieu selon les Béatitudes ? Les Béatitudes, c'est dans le sermon le plus fameux de Jésus, sur la montagne ou sur la colline, où il dit les Béatitudes, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice et ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui reconnaissent leur simplicité d'esprit car ils seront comblés. » Et il continue en disant « Que serait un Dieu selon les béatitudes que je viens de vous citer, qui ne ferait rien pour que le monde devienne conforme à ces béatitudes ?» L'idée de jugement implique que Dieu n'est pas d'accord avec le monde tel qu'il est. Dieu n'est pas d'accord avec le monde tel qu'il est. Et il le fait savoir. Et il y a de l'indignation en Dieu que l'on est appelé à peut-être à partager un peu plus souvent. Mettons-nous en colère contre l'injustice et le mal dans le monde. devant la destruction de la planète ou de la création de Dieu, même devant cette autoroute entre Castres et Toulouse, contre toute évidence, on veut construire une autoroute pour faire gagner 20 minutes. Et en payant un péage de 25 euros, je crois, pour 50 kilomètres. Bon, bref, alors je ne veux pas défendre Dieu qui se défend très bien tout seul en parlant de la colère de Dieu, mais on peut aller jusqu'à dire que ces fléaux, la colère de Dieu qui est comme un appel. Un appel de Dieu à un changement, que dans le texte biblique, c'est la repentance, le fameux texte, le mot grec, métanoéo, se repentir, changer de direction, se convertir, changer d'optique. Un appel de Dieu dans sa grâce, un appel au changement, un petit peu comme le pharaon dans l'Exode et les 10 plaies d'Égypte, et il semble que Jean s'inspire de ces 10 plaies d'Égypte pour écrire. Et à chaque plaie dans le livre de l'Exode, il y a un appel à Pharaon. Pharaon, fais quelque chose, change, laisse sortir le pays, le peuple hébreu d'Égypte. Et le texte nous dit, et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et les fléaux sont à la fois des épreuves terribles, mais aussi des appels à la repentance. Et dans Apocalypse 16, 9, après que le quatrième ange ait versé la quatrième coupe qui provoque des blessures, il est dit, mais ils refusèrent de changer de métanoéo et de lui rendre hommage. Et il y avait pourtant là encore une possibilité de changer de direction, de se convertir. J'ai mis la pochette de disque de Supertramp, le bon groupe, on en parlait avec Rémi d'Alpha là, il n'y a pas longtemps. Super groupe, vous savez de quelle époque date cet album ? 1975, après la crise de 1974, l'énorme crise pétrolière de 1974. Et le titre de cette pochette, de ce disque, c'est « Crisis ». What crisis ? La crise. Mais quelle crise ? Il est sous son parasol alors que tout le fond est gris. Quelle crise ? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le mot « crisis » en grec, qu'a donné le mot « crise », veut dire en grec « jugement ». Jugement, une crise, mais un jugement pour changer, un jugement pour transformer. Nous sommes dans des temps de crise aujourd'hui et on peut se demander si nos sociétés occidentales se posent les bonnes questions quand il y a des crises, jugements. Est-ce que nos dirigeants sont prêts à se remettre en question en cas de crise sociale, en cas de crise économique, en cas de crise écologique ? Il y a encore des climato-sceptiques, mais quand on voit les glaciers fondre, quand on voit les oiseaux avoir diminué de 50% en 20 ans. Des crises morales, est-ce que nos dirigeants se posent alors la question ou la question de Dieu au sérieux ? Et cette question, on ne va pas tout mettre sur nos dirigeants, c'est un petit peu facile. Hein ? Cette question se pose pour nous. Est-ce qu'en cas de crise, est-ce que je prends l'appel de Dieu au sérieux ? Deux questions pour suivre. Qui les envoie ces cavaliers ? Alors le texte de l'Apocalypse est assez clair, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux, les anges qui sonnent de la trompette, des anges qui portent les coupes. Dieu est désigné comme la cause première. Et tout ce qui peut arriver dans le monde. Parce que pour Jean, Dieu contrôle toutes choses. Et il est quand même quelque part réconfortant de savoir que rien n'échappe à son contrôle. Même aussi dans le livre de Job, par exemple. Dieu dit jusque-là, mais pas plus loin. Limite. Mais Jean dit aussi, et il dit aussi ça, que c'est Christ qui ouvre les sceaux, qui attribue à Dieu la cause première de tous ces fléaux, parce qu'il ne veut pas attribuer tout ce qui arrive de mal à un Dieu mauvais. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une secte, une religion qui s'appelait le gnosticisme, et qui était très dualiste, et qui disait que ce qui est mauvais venait d'un dieu mauvais, le démiurge, et ce qui est bon venait d'un dieu bon. Une sorte de dualisme qui aujourd'hui se retrouve parfois dans le yin et le yang, hein, vous savez, les trucs qui s'imbriquent, et qui dirait que le mal vient équilibrer le bien. Que le mal n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il vient équilibrer le bien, et qu'il faudrait le mal pour qu'il y ait le bien. Et ce faisant, ce dualisme justifie quelque part le mal. Il est là, parce qu'il faut bien qu'il soit là pour qu'il y ait le bien qui ressorte. La Bible n'est pas dualiste. Le Dieu mauvais n'existe pas. Le mal est simplement corruption du bien. Bref, il ne veut pas attribuer le mal à Dieu, il attribue les fléaux à Dieu pour ne pas l'attribuer à un Dieu mauvais qui pourrait détourner l'attention et amener à un dualisme qui n'est pas selon Dieu. Le mal est second, incapable de créer, seul capable de détruire ou de corrompre le bien créé par Dieu. Dieu est premier en tout. C'est pour ça que Jean présente Dieu cause première de tous ces fléaux. Je ne sais pas ce qui arrive. Dieu est en contrôle de tout. Mais en même temps, il y a des causes secondes qui apparaissent et qui sont tellement évidentes qu'on pourrait les mettre comme cause première à place à ces fléaux. La guerre, le deuxième cavalier. Dieu est en contrôle de tout, mais qui est responsable des guerres? Qui est responsable des guerres? Qui la déclare, la guerre, pour agrandir son territoire et s'enrichir? Qui arme les soldats? Qui appuie sur les boutons rouges du nucléaire? Qui vend de l'uranium enrichi à des nations dangereuses? Qui s'enrichit sur les ventes d'armes? Qui jalouse le pétrole du voisin jusqu'à s'inventer une guerre préventive, hein, Irak, etc.? Qui, sinon les hommes, dans leur soi-disant liberté de mener leur vie comme ils l'entendent? Deuxièmement, la famine. Qui est responsable de la flambée des prix du cours de la bourse pour le café et le cacao? Qui est responsable du déséquilibre nord-sud qui spécule sur les marchés financiers, sur le gaz, sur le pétrole, sur les céréales? Et quand les camions de l'aide humanitaire arrivent dans les pays en famine, qui sont ceux qui les dévalisent pour les vendre un petit peu plus loin et s'enrichir? Qui, sinon les hommes et leur légendaire sens du partage? Et pour les maladies et les épidémies, et qui est responsable? Les moustiques ou les compagnies pharmaceutiques toutes puissantes? Qui distribuent les médicaments comme elles le veulent et qui arrêtent d'en produire quand ce n'est plus rentable. Et on l'a vu pour le Covid-19, je ne vais pas rentrer dans les détails, et les vaccins, ça a été un bazar énorme. Et déséquilibré. Nous, on a eu tout ce qu'il fallait, mais d'autres n'ont rien eu. Bref, et pour les bêtes féroces, qui les mettait dans les arènes? Sinon les hommes. Alors on peut toujours accuser Dieu de tous les maux et de tous les fléaux, mais ce sont les hommes quand même, dans leur entêtement et leur désir du toujours plus pour moi, pas toujours plus pour les autres, et encore moins oui, qui attirent sur eux cette crise qui est aussi un jugement de Dieu et un appel à changer de direction. Deuxième question, quand arrivent-ils ces fléaux? Ah ouais, c'est quand c'est il y a plusieurs pensées là-dessus parmi les biblistes et certains chrétiens fidèles à l'Écriture pensent qu'il s'agit d'événements futurs avec et successifs chronologiques. Il va y avoir ça, ceci, cela, et avec en finale la grande tribulation. Avec, moi j'ai appris ça aussi, il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses qui vont arriver avant la tribulation, au milieu de la tribulation, après la tribulation, les pré-tribes, les mid-tribes et les post-tribes. D'autres personnes, tout aussi sérieux et fidèles à l'écriture, pensent qu'il s'agit d'événements qui sont déjà en cours aujourd'hui. Et quand Jean s'adresse à des gens qui vivent des tribulations énormes dans cet empire romain, comme Smyrne, l'église en souffrance, et nous avons parlé aussi dimanche dernier de l'église persécutée, dont l'église en souffrance également, dans la tempête, on pense à ces paroles de Jésus, la question de la grande tribulation, que Jean, le même auteur que l'Apocalypse, qui fait aussi l'évangile de Jean, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez maintenant, hic et nunc, ici et maintenant, des tribulations dans le monde. Les tribulations font partie de l'actualité du disciple, ici et aujourd'hui, de tous les chrétiens. Et vous sentez que je suis un peu plus proche de la deuxième interprétation. On n'est pas dans une chronologie d'événements, on est dans un cycle plutôt, et on est en plein dedans. Et j'ajoute là, je l'avais écrit, je pense que la tribulation c'est ici et maintenant, mais je peux me tromper, je voulais vous le dire. Mais il me semble que beaucoup d'éléments dans le texte biblique vont dans le sens d'une tribulation quand même que nous vivons présentement, avec plus ou moins d'intensité selon les époques et selon les quantités, les continents. Oups, ça devient difficile. Et quelque part, nous ressemblons à ces chrétiens morts pour leur foi qui disent au verset 10, jusque à quand? Vous savez que depuis 1950, on estime à 10 millions le nombre de chrétiens morts pour leur foi. C'est énorme. Jusque à quand va-t-on vivre dans cette ambiance? Et il y a une autre question qui apparaît au verset 17 et qu'on a lu tout à l'heure, sa grande question, mais qui pourra subsister? Qui pourra subsister? À ce qui pourra tenir le coup, qui va s'en sortir, qui va survivre à la pression ambiante des persécutions de l'Empire, au désastre provoqué par l'injustice des hommes et qui sont autant de jugements de Dieu sur ce monde, qui pourra subsister? Et on pourrait se poser la question. Et la réponse à cette question se trouve au chapitre 7, dans le deuxième volet de cette histoire de sceau que nous avons lue tout à l'heure. Il y a là quatre anges qui retiennent les vents, quatre anges aux quatre coins de la terre, les quatre points cardinaux, qui dans le langage apocalyptique signalent l'universalité, c'est-à-dire qui concernent le monde tout entier. Et un autre ange sort du groupe et il tient le sceau du Dieu vivant. Et dans ce chapitre, le sceau n'est pas ouvert ni fermé, mais il est appliqué sur des personnes. Il vient comme une marque qui signale à la fois l'appartenance et la protection. C'est ça le sceau, l'appartenance et la protection. L'appartenance, quand le roi mettait son sceau royal sur un document, en général avec sa bague dans de la cire, tout le monde savait que c'était un document royal qui appartenait au roi. Signale l'appartenance, mais en même temps, ce sceau montrait qu'il était protégé. Personne n'avait le droit de l'ouvrir sans permission du roi. On ne touche pas à ce qui est scellé. On ne touche pas aux gens qui portent la marque du sceau royal. Ils sont sous sa protection, appartenance et protection. Et nous avons donc ici la réponse à la question du verset 17, qui pourra subsister? Eh bien, pourront subsister ceux qui portent le sceau de Dieu et qui signalent leur appartenance à ce Dieu et leur sécurité. Alors, qui sont-ils, ces personnes? C'est les qui sont ceux qui reçoivent le sceau. Eh bien, j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient... Oh, il y en a quelques-uns qui suivent. Ils étaient 144 000. La grande Attendez, j'ai raté un. Alors voilà, c'était ça que je voulais. Voilà, ouais. J'ai été trop vite. 144 000. 144 000. Alors, on a beaucoup écrit sur ce chiffre. Vous savez que pour les témoins de Jéhovah, 144 000, ils en ont fait un chemin de bataille. Pour eux, ce chiffre s'est arrêté en 1935. Ce sont les 144 000 sont les vrais de vrais. Ce sont ceux qui iront au premier étage du salut. Les autres, les témoins de Jéhovah modernes, auront droit à un paradis de deuxième zone sur la terre. Mais c'est vrai ce que je dis, c'est dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Des explications un petit peu alambiquées, quand ils prennent la Sainte Cène, on ne sait pas si tu fais partie des 144 000, etc. Bon, bref. Et qui oublient le caractère symbolique des chiffres de l'Apocalypse. 12, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 disciples. 12 fois 12, fois 1000. Le chiffre qui montre la complétude, qu'on est tous là. 144 000 signale donc que le groupe est au complet, que tous ceux qui devaient y être, y sont, personne ne manque à l'appel. Et le chiffre 144 000 montre surtout que Dieu prend soin de son peuple, le nouvel Israël, les 12 tribus au carré. 12 au carré, fois 1000, son Église. Tout son peuple, il n'y a personne qui sera négligé, tous marqués de son sceau. Et c'est une manière de dire que Dieu est en charge de son Église, de vous, de toi, de moi. De chaque vie, de chaque personne, et que chaque personne compte et qu'il ne va abandonner personne en route. Et vous savez que l'on dit souvent que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité qui compte. Souvent, on en avait parlé avec Yvonne à l'époque, vous voyez dans les médias qu'il y avait des pères qui étaient pris par leur travail, qui disaient, bon, je passe peu de temps avec mon enfant, mais c'est des temps de qualité. Ok, mais la quantité compte aussi. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vécu, ça. La quantité compte. Imaginez que vous êtes. Imaginons que nous étions avec nos trois enfants et que nous en route dans la voiture et que nous nous arrêtions à une aire d'autoroute, pas pour prendre de l'essence, c'est trop cher, mais bon, pour s'arrêter, boire un café, etc., et aller aux toilettes. Et puis quand on repart, on tourne la tête ou je regarde dans le rétro et j'en vois que deux derrière. Et on se dit tous les deux, avec Yvonne, ouais, on a la qualité là avec les deux. Pas besoin de la quantité. Mais non, on ne fait pas ça. On retourne, si on le peut, dans l'air de l'autoroute pour récupérer le troisième. Parce que la quantité compte. Et Dieu veut qu'on soit tous là. Les 144 000, 12 au carré fois 1000. Personne n'est laissé au bord de la route. C'est ce que dit Dieu à ses églises dans les tribulations, à son église dans la tribulation. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront exemptés de ces tribulations, mais personne ne s'y perdra. Personne qui porte le sceau du Dieu vivant. Alors, parce que nous sommes curieux, nous aimerions savoir de quel sceau il s'agit. Et vous avez une image du bras d'Olivier Giroud qui a marqué deux buts hier et qui est chrétien et qui a sur son bras, en latin, ça c'est dommage, mais le psaume 23, si je... Dominus... ah non, je vais demander... Lève-toi, s'il te plaît, tu peux me traduire, c'est quoi? C'est pas le psaume 23, hein? Bon, bref, on attend quelques instants, mais il me semblait que c'était le psaume 23, mais mon latin est loin. Voilà, est-ce que c'est un tatouage? Un chouette tatouage? Mais moi, je pense à Paul qui parle aussi de sceau, c'est un autre contexte. L'apôtre Paul, l'auteur de beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, qui nous dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Du Saint-Esprit. Et ça, c'est fort. Éphésiens 1:13. Ceux qui ont reçu l'Esprit, qui ont accueilli l'Esprit par la foi de leur, dans leur conversion, lors de la conversion, sont marqués à jamais et ils sont reconnus par Dieu comme étant ses enfants et jamais, à jamais, pardon. Et pour eux, on pourrait citer ce texte bien connu de Romains 8, ni la mort, ni la vie, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et apposé dans nos cœurs par grâce, par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit, parce que nous avons, parce qu'ils ont et nous avons reçu, je crois, le sceau du Saint-Esprit. Et ça, c'était un énorme encouragement pour les chrétiens sous l'Empire romain. Et est-ce que c'est un encouragement pour nous, hommes et femmes du 21e siècle ? Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous êtes scellés d'un sceau royal. Alors, tout dépend un petit peu, si ça a de l'effet pour nous, tout dépend un petit peu de chacun d'entre nous et de notre orientation. Si nous sommes le nez dans le guidon, comme certains coureurs du Tour de France à pédaler dans la choucroute, alors ce monde va nous faire peur. L'avenir va nous sembler ténébreux, s'il en reste un avenir. Rien n'aura véritablement d'explication et de sens, alors on se posera la question de sa survie. Qui survivra dans ce monde ? Et le désespoir viendra frapper à la porte de notre vie. Mais on pourrait faire comme un autre coureur cycliste qui a gagné une étape dans le Tour de France et qui, sur la ligne d'arrivée, se relève de son vélo et met ses bras en croix et vers le ciel. Et lorsqu'il lève les yeux vers le ciel, et là, on n'est plus dans le Tour de France, hein, il voit comme une révélation, comme une apocalypse, il voit la victoire de Dieu, la victoire du bien suprême sur les forces du mal. Et même si on ne comprend pas tout au film, s'il ne comprend pas tout au film, il dit « Je te fais confiance, Seigneur, pour mon avenir et l'avenir de ce monde en crise ». C'est tout le message de l'Apocalypse. Amen.